Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Réformer le statut de l'élu sans froisser les premiers concernés. Lors de sa déclaration de politique générale ce mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe devra convaincre. Il sera attentivement écouté par les élus locaux, vous le comprendrez. Et puis après ce journal, le billet politique de Frédéric Saïs se demandera pourquoi ce discours est prononcé par Édouard Philippe et non pas par Emmanuel Macron.
Avant cela, dans cette édition, nous nous pencherons sur les créations d'emplois en France. Elles augmentent. Selon l'INSEE, la confiance revient.
Le gouvernement de Hong Kong reporte le projet de loi controversé sur les extradition vers la Chine. La gigantesque mobilisation populaire aura-t-elle fonctionné? Nous poserons la question à notre correspondante.
Et puis nous nous intéresserons ensuite à la libération du journaliste Ivan Golunov. Là aussi, les autorités russes ont craqué face au soutien de la société civile et des médias.
Et puis quelle est la défense des séparatistes catalans à leur procès? Il se termine aujourd'hui à Madrid et nous irons sur place. Édouard Philippe doit se réinstaller pleinement aujourd'hui dans sa fonction de Premier ministre. C'est lui qui va prononcer la déclaration de politique générale, la deuxième du quinquennat Macron. À 15h cet après-midi, les députés l'écouteront dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un discours qui doit préciser les contours de l'acte 2 annoncé fin avril après le grand débat national, acte 2 selon le gouvernement. Il y aura donc le calendrier des réformes, retraite, assurance chômage, bioéthique, les détails des baisses d'impôts, de la politique écologiste également. Mais il s'agira aussi et surtout de lancer une offensive de charme auprès des élus locaux à un an des élections municipales. Édouard Philippe pourrait ainsi annoncer un projet de loi sur l'engagement politique avec une réforme du statut de l'élu. En quoi consiste-t-elle aujourd'hui? Élément de réponse d'abord avec Jean-Claude Billot, maire de Ferrières près d'Amiens. Il est président de l'association des maires de la Somme.
Le statut de l'élu, c'est tout simplement une autorisation d'absence dans les entreprises non rémunérées. Et c'est aussi, à la fin du mandat, 6 mois d'indemnisation au chômage en cas de perte d'emploi. C'est largement insuffisant. Aujourd'hui, dans un département comme la Somme, 80% des maires ont une indemnité de l'ordre de 600 euros par mois, alors qu'ils sont obligés d'arrêter à mi-temps au moins leur travail. Si on parle de la retraite, j'ai 7 mandats derrière moi, 40 ans de vie publique. Je vais m'arrêter. Je vais toucher 300 euros par mois de retraite. Si on veut vraiment que des ouvriers, des gens du privé viennent dans ces fonctions-là, là, il faut qu'on y mette quelque chose. Et on nous annonce une reconnaissance universitaire, de reconnaître que quelqu'un qui a été maire pendant 6 ans ou pendant 12 ans serait d'un niveau d'une licence, d'un master, je sais pas. Ça veut rien dire du tout.
Bonjour, bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Alors, on entend le scepticisme de Jean-Claude Billot. Rosalie, vous avez rencontré plusieurs maires de la Somme et clairement, cette reconnaissance universitaire qui pourrait être annoncée par le Premier ministre, ça n'est pas ce qu'ils attendent.
Eh bien non, ils veulent avant tout du concret, même s'ils n'y croient pas franchement.
J'en attends pas grand-chose, malheureusement.
Jean-Claude Renaud est maire de Camon, commune de 4500 habitants près d'Amiens.
On a un État qui est de plus en plus jacobin, qui vient de plus en plus nous contrôler. On n'est pas accompagné par l'État, on est contrôlé, suspecté. On a des injonctions, on nous retire des moyens et en même temps on nous met des charges supplémentaires. On doit nous laisser de la latitude. Qu'on nous laisse vivre, que l'État nous lâche un peu, qu'on nous fasse confiance. Parce que nous, on est des gens responsables.
Responsable et volontaire, Valérie Mouton est maire depuis 2011. Elle se consacre aujourd'hui à plein temps aux 800 administrés de la commune nouvelle d'Audecel.
Moi, j'ai carrément cessé mon activité. J'étais assistante maternelle et les deux n'étaient pas conciliables. Seulement maintenant, en dehors de mes indemnités, je n'ai pas d'autres ressources. Mon indemnité de maire nette, elle est de 1300 euros. Voilà, il n'y a pas de statut de retraite, on est isolé, le poids des responsabilités, tout est de notre faute, ça devient plus gérable. Et puis, dans les petites communes, on n'a pas de staff administratif, on a une secrétaire, parfois une et demie. Voilà, c'est ça aussi dont on a besoin.
Des moyens, de la reconnaissance, des perspectives post-mandat, voilà ce que préconisent ces maires. Et il y a urgence, explique Ernest Candela, premier édile de Saleux et ses 3000 habitants depuis 18 ans. Il rendra son écharpe l'an prochain, non sans inquiétude.
Je ne trouve pas de remplaçant. Personne ne veut ce poste. Ça devient très difficile, tout change trop vite, rien n'est fait pour aider l'élu. Ça fait des années que des idées sont exprimées, rien n'a jamais été repris, aucun travail sérieux n'a jamais été fait. Il n'y a personne au bout, c'est du n'importe quoi.
Aujourd'hui, au bout, il y a le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, aux manettes de cette réforme. Mais encore une fois, regrettent ses élus, les changements se préparent dans l'ombre des cabinets parisiens, bien trop loin du terrain.
Merci Rosalie. Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. La déclaration d'Édouard Philippe cet après-midi sera suivie d'un vote de confiance à l'Assemblée. Les élus de gauche et une partie des députés, les Républicains, pourraient voter contre. Les Républicains, dont le bureau politique s'est réuni hier, soir, le parti a acté la date pour l'élection de son nouveau président. Ce sera à la mi-octobre. Il a aussi été question des appels du pied de la majorité gouvernementale auprès des élus et des militants de droite pour les convaincre de quitter les Républicains. À moins d'un an des municipales, ils sont de plus en plus insistants, Anne Fauquemberg.
Ces pressions, elles scandalisent le président par intérim, Jean Leonetti. Des coups de téléphone répétés aux élus LR, mais pas seulement, a-t-il raconté hier soir à la sortie du bureau politique.
Il y a des invitations qui sont assez régulières à l'Élysée ou à Matignon, de maires, de manière régulière. Je ne pense pas que, compte tenu du mépris qu'a eu Emmanuel Macron jusque-là pour les élus locaux, ça corresponde à une volonté de renouer un dialogue, mais plutôt à une volonté de démarchage.
Jean Leonetti qui est aussi revenu sur les propos de l'eurodéputé LaREM, Gilles Boyer, qui a qualifié d'ennemis du président tous ceux qui seront élus sans l'aide ou l'apport de la majorité. Propos pour lesquels l'ex-conseiller politique d'Édouard Philippe s'est excusé depuis, mais qui en disent long sur la mentalité à La République En Marche, estime Jean Leonetti.
Nous, on pense qu'on n'a pas d'ennemis. On a des adversaires. Pour moi, Gilles Boyer ne sera jamais mon ennemi. Pour autant, je trouve que cette démarche et cette phrase est assez significative de la pression qui a été mise sur l'ensemble des élus locaux. Et nous, on veut les laisser libres. On les incite aussi, non pas à la résistance, mais à du courage.
Et pas question donc d'attendre l'élection du futur président du parti en se laissant dépecer sagement. En accord avec Gérard Larcher au Sénat, le président par intérim organisera fin juin ou début juillet à Paris une convention sur les valeurs et les fondamentaux de la droite républicaine.
L'emploi salarié poursuit sa hausse en France pour le premier trimestre de cette année, plus 0,4%, dit ce matin l'INSEE. Cela correspond à 92 800 créations nettes dans le secteur privé, 92 800 créations nettes. Dans le même temps, les intentions d'embauche restent globalement stables dans le pays, selon le baromètre Manpower. Elles augmentent dans les secteurs du transport et de la logistique. Elles baissent par ailleurs dans les secteurs de la construction et de l'industrie. En moyenne, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Cette confiance, selon le président de Manpower en France, Alain Roumillac, cette confiance est largement due à la libéralisation du marché du travail par le gouvernement. Il s'en explique.
Il y a sans doute un effet un peu psychologique lié aux ordonnances pénico du début de la mandature qui font que les entreprises aujourd'hui, elles ont des difficultés à trouver les bonnes compétences. Quand elles les trouvent, elles les embauchent. Puis elles disent, si demain j'ai plus de difficultés, de toute façon, j'aurai sans doute plus de possibilités d'ajuster mes ressources avec ce qui est ma problématique business. Donc on dit parfois, mais c'est ce que l'on perçoit, qu'on a une croissance qui est plus fertile en emploi. Avant, avec 1,5% de croissance, on créait assez peu d'emplois. Et bien, finalement, maintenant, sans doute parce qu'on a libéralisé entre guillemets un peu le marché du travail, on a une capacité à créer plus d'emplois.
Des propos recueillis par Anne Lorchouin. Il est aussi question d'emploi en ce moment à Radio France. Après l'annonce d'un plan d'économie, 60 millions d'euros à trouver sur 3 ans. La direction, la semaine dernière, évoquait une suppression de 270 à 390 postes. Hier, la présidente de Radio France, Sybille Veil, était auditionnée à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires culturelles. Il faut, a-t-elle martelé, diversifier les revenus de Radio France, Maxime Tellier. Maxime oui. Tellier, que nous allons retrouver dans quelques instants. Maxime Tellier, qui a suivi hier Sybille Veil, la présidente de Radio France, qui était auditionnée à l'Assemblée nationale.
Dans une culture de la recette, car le modèle économique du passé semble révolu. L'époque où le groupe public pouvait compter sur un actionnaire garantissant un montant pérenne de la redevance. Désormais, l'État baisse sa dotation et comme il n'est pas question de mettre plus de publicité à l'antenne, il faut trouver des ressources propres.
Sauf à aller de plan d'économie en plan d'économie, il faut que l'on puisse avoir dans cette entreprise des recettes qui augmentent au même rythme que nos charges.
Et la méthode choisie s'illustre avec les orchestres. Par exemple, lors du précédent grand conflit social en 2015, il avait été question d'en supprimer un sur les deux. Désormais, Sybille Veil veut les maintenir, mais les musiciens vont devoir se diversifier.
L'exemple de l'enregistrement des musiques de films. Ça nous permet de faire valoir à la fois le savoir-faire de nos musiciens, qui sont des musiciens dont la renommée est internationale, le savoir-faire de nos techniciens, les lieux d'enregistrement et de production dont nous disposons, et qui ont été modernisés grâce à chantier de réhabilitation.
Et cette structure s'appellerait le Studio Radio France et pourrait aussi cibler les artistes afin d'enregistrer leurs albums. Radio France loue aussi ses salles, ses studios pour des événements privés, son parking également. Quant au personnel, il sera moins nombreux d'après les plans de la direction et va devoir se diversifier, accepter des plans de formation. En plus de la radio en direct et du contenu web, il faudra aussi faire de Radio France un leader du podcast. En somme, faire toujours mieux, mais avec moins d'argent.
La prise d'otage dans l'Orne à la prison de Condé-sur-Sarthe hier est terminée. Le détenu s'est rendu tard hier soir après avoir libéré un deuxième surveillant, connu pour avoir déjà commis au moins 5 prises d'otages. Francis Dorfer a été placé hier en garde à vue.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement de Hong Kong reporte l'examen d'un projet de loi controversé.
Poussé par la pression populaire, ils sont des milliers d'ailleurs ce matin à bloquer encore plusieurs artères principales de la ville. Le texte contesté évidemment effectivement à Hong Kong vise à faciliter les extraditions de suspects vers la Chine continentale. Il aurait dû être examiné en seconde lecture aujourd'hui. Ça n'aura donc pas lieu, Florence de Changy.
Le gouvernement a momentanément cédé. Le camp pro-démocratie avait tenté de convaincre depuis lundi le président du LegCo, Andrew Lang, de prendre cette décision au vu de la tension qui montait dans la population et aux abords immédiats du Parlement où des dizaines de milliers de manifestants sont arrivés ce matin, bloquant le trafic. C'est un recul, c'est même un constat d'échec quant à l'attitude jusqu'au boutiste et intransigeante du gouvernement et sans doute en particulier de la chef de l'exécutif, Carrie Lam, connue pour être têtue, qui a pensé qu'elle pouvait passer en force en ignorant d'une part l'appel massif qu'a représenté la marche de 1 million de personnes ce week-end et en redoublant la vigilance policière, ce qui a contribué à faire monter la tension parmi la population et notamment les jeunes. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est si ce rapport est signé et que le projet de loi est bel et bien abandonné ou si ce n'est que reculer pour mieux sauter. Pour le moment, en tout cas, cela n'a pas suffi à calmer les manifestants qui vont sans doute vouloir obtenir une annulation complète du projet de loi.
Florence de Changy à Hong Kong pour France Culture. Au Soudan, l'opposition reprend les discussions avec le Conseil militaire de transition. Pour rétablir la confiance entre les deux parties, les militaires ont accepté hier de libérer les prisonniers politiques. L'opposition, elle, avait un peu plus tôt annoncé la suspension de sa campagne de désobéissance civile dans le pays. C'est une mobilisation historique qui l'aura finalement fait libérer. Le journaliste russe Ivan Golunov, accusé de trafic de drogue par les autorités russes. Le journaliste est disculpé. Son bracelet électronique lui a été retiré. Un recul rarissime en Russie, à la mesure de l'indignation et de la mobilisation suscitée par cette affaire dans la société civile, mais également dans les médias. La politologue Marie Mindras note que même les médias pro-Poutine se sont mobilisés pour le journaliste d'investigation.
Et je crois que c'est ce qui a vraiment fait tourner l'affaire au vinaigre pour le Kremlin. Plusieurs journaux gouvernementaux, plus ou moins serviles, et certains moins serviles comme Kommersant, ont fait la une. Nous sommes Ivan Golunov, ou je suis Ivan Golunov, et même des télévision. On sait que ça, la télévision, c'est sacré pour le Kremlin. Ils ont un contrôle de toutes les télévisions basées en Russie et émettant de Russie. Même les télévisions gouvernementales ont parlé de l'affaire Golunov. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est que les journalistes n'aiment pas qu'on touche à d'autres journalistes. Parce que si c'est l'impunité totale, s'il suffit de mettre une drogue dans la poche d'un journaliste pour que tout s'arrête, alors même le journaliste qui est dans un média gouvernemental, il sait que son tour peut arriver. Donc je dirais que vraiment l'erreur des autorités, c'est de s'attaquer à des journalistes avec ce type de procédé.
La politologue spécialiste de la Russie, Marie Mindras, au micro de Stanislas Vazak. Lula reste en prison, du moins pour le moment. L'examen de sa libération, de sa demande de libération, a été reporté sine die par la Cour suprême. Un report qui intervient 2 jours après des révélations sur un site internet. L'enquête anticorruption ayant mis Lula en prison aurait été orchestrée par un ministre de l'actuel gouvernement de Jair Bolsonaro. Partons maintenant en Espagne où se déroule ce mercredi le dernier jour du procès des indépendantistes catalans. Il aura duré 4 mois. La semaine dernière, le procureur a réclamé des peines allant jusqu'à 25 ans de prison contre les responsables sécessionnistes. Ils avaient organisé, je vous le rappelle, un référendum illégal fin 2017 et ils avaient déclaré l'indépendance de la Catalogne. Hier, lors du procès, les avocats défendaient leur client, Mathieu de Taillac.
Après les lourdes accusations du parquet, il y avait deux stratégies possibles. D'abord, la stratégie politique. C'est celle de l'avocat d'Oriol Junqueras, l'ex-vice-président du gouvernement catalan, maître Andreu Vandaney.
Ce que vous poursuivez, c'est une idéologie. Vous criminalisez la défense de cette idéologie à l'étranger. Vous criminalisez le fait que l'on prépare des textes pour défendre cette idéologie. Vous criminalisez le fait que l'on défende cette idéologie dans les urnes.
Toute autre stratégie du défenseur de Joachim Forn, l'ex-ministre régional à l'intérieur, son avocat, Javier Melero, veut démontrer que le délit de rébellion, le plus grave de tous, n'est pas caractérisé, quitte à céder sur d'autres chefs d'accusation.
Si vous voulez nous condamner pour désobéissance, allez-y. Si la désobéissance, c'est le simple fait de participer à un gouvernement régional qui affirme dans son programme qu'il désobéira à la Cour constitutionnelle, alors allez-y, je ne peux rien contre ça.
Autant abandonner le délit de désobéissance qui, de toute façon, n'est pas passible de peine de prison. Procès politique ou défense pragmatique, les stratégies des avocats seront amplifiées aujourd'hui par les dernières allégations des accusés eux-mêmes.
Mathieu de Taillac au procès des indépendantistes catalans qui se déroule à Madrid. Nous revenons en France pour quelques mots de la météo. Le temps de ce mercredi sera largement instable sur un gros quart nord-ouest, entre averses et orages. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Comptez 13 degrés ce matin à Rennes, 14 à Bordeaux, Lille, Besançon, 15 à Paris et 21 degrés à Nice.